Venir à cette conférence, et ce sont nos étudiants, sans doute, qui sont un peu en retard, qu'on essaye de placer. Merci, merci à tous de venir aussi nombreux à la chocolaterie. Je me présente, je suis Marc Claremont, je suis le directeur du département de l'école de la nature et du paysage. Et donc nous sommes très heureux de voir autant de monde pour cette conférence de ce soir. C'est un des objectifs de notre département, de faire en sorte que l'école soit aussi ouverte sur la ville. Et cette affluence nous fait chaud au cœur. Et j'espère que vous reviendrez souvent venir assister à des conférences ici, puisque cette conférence inaugure le nouveau cycle des discussions dites de la chocolaterie, qui est le cycle de conférences de notre département. Bon. En plus, cette année, événement supplémentaire, nous nous associons au rendez-vous d'histoire, ce qui fait que vous êtes encore plus nombreux. Et nous sommes donc très, très contents de vous accueillir nombreux ici. Je vous demande d'essayer de rester en contact avec l'école via son site internet, etc., pour connaître la future programmation, qui n'est pas encore totalement calée pour la date. Mais logiquement, en novembre, il devrait y avoir une nouvelle date pour la deuxième discussion de la chocolaterie. Et je vais passer la parole à Olivier Gaudin pour introduire notre conférencier.
Merci Marc. Je voulais également remercier nos partenaires. Donc Studio ZEF qui est ici présent, qui assure la diffusion de la conférence, la radiodiffusion. Également Cinéphile, l'association qui travaille avec le cinéma de Blois, les Lobbies. Donc la prochaine discussion aura la forme en fait d'une projection suivie d'une discussion. La date définitive a bougé un tout petit peu parce que l'intervenant n'était pas forcément finalement disponible au dernier moment. Mais bon, ça devrait être courant novembre. Ça sera bien sûr diffusé sur nos réseaux. Nous avons également comme partenaire le CAUE 41, qui devrait aussi être représenté à chacune des conférences, l'une ou l'autre des conférences en tout cas. L'idée est d'inviter justement des intervenants extérieurs à engager un peu une discussion, même si ça prend toujours la forme d'une présentation qui ressemble à une conférence, notamment ce soir, et d'ouvrir à la salle, qui ce soir est pleine, on en est ravis, également la possibilité donc d'un échange avec un intervenant extérieur. Sans plus attendre, donc je présente rapidement notre intervenant, Jean-Michel Léger, qui est chercheur au CNRS, sociologue de l'habitat, qui a enseigné à l'école de Paris-Belleville, l'école d'architecture, pendant de longues années, et qui est auteur de nombreux livres sur le sujet. Notamment, je n'en citerai deux, un ouvrage qui s'appelle « Dernier domicile connu », qui est paru en 1990 aux éditions Créafis, qui portait déjà sur la sociologie du logement, et plus récemment, un ouvrage qui s'appelle « Usage », aux éditions de la Villette, qui est un tout petit ouvrage, mais qui est remarquablement synthétique, bien écrit, et que je vous recommande à tous. Sans plus attendre, je lui passe la parole. Merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir accepté de nous rendre ce soir cette visite.
Merci, merci Olivier, merci à vous d'être là aussi nombreux. Je pense que j'ai jamais vu de ma vie un public aussi nombreux que vous ce soir. Je remercie Olivier de m'avoir fourni l'occasion, m'invitant, de revenir sur la notion d'invention en matière d'urbanisme, l'invention étant, comme vous savez, le thème des rendez-vous de l'histoire cette année. Bon, je parlerai surtout des représentations de la ville. Quelles sont les sources de l'invention en matière d'architecture, d'urbanisme? Quelles sont les intentions à chaque moment historique? Et puis, la notion de ville nouvelle a-t-elle un sens encore aujourd'hui, à une heure où, de fait, la ville qui se fait paraît une ville sans inventeur, sinon sans invention? Je parlerai de fait d'une manière peut-être un peu détournée des villes nouvelles. Je ne sais pas si j'établirai un retour sur les villes nouvelles et je ne voudrais pas vous décevoir. Alors, c'est toujours une manière. Il faut jamais répondre à la demande qui vous est faite et je crains que vous soyez venu là peut-être pour entendre un vrai retour sur les villes nouvelles et ce retour sera dilué dans d'autres considérations sur la ville, la cité idéale. et la ville d'aujourd'hui, la ville émergente, la ville qui se fait autour de Blois comme partout en France. Alors, je commence par un mot sur le sur la, l'affiche qui est, elle, est bien dans le sujet des villes nouvelles, puisqu'il s'agit de cigarettes au bec à une époque où on pouvait encore fumer. Je ne dis pas une époque bénie, mais c'est vrai que c'était terrorisant, comme maintenant on interdit de fumer. Là, je suis en train de lire un livre de Houellebecq qui dit « mais c'est pas possible, effectivement. » Autrefois, on fumait partout, dans les cafés, dans les rues, dans les salles, les amphithéâtres d'étudiants, on fumait. J'ai connu ça, évidemment. Enfin, c'est pas la question. Donc, cigarette au bec, c'est Bernard Hirsch qui a été le fondateur de la Ville Nouvelle en tant que, évidemment, polytechnicien, comme tous les hauts fonctionnaires du ministère de l'Équipement d'alors. Et donc, il était le directeur de l'établissement public d'aménagement, donc l'institution étatique de l'aménagement de la Ville Nouvelle. Et à sa gauche, c'est Jean Cognet, qui était l'urbaniste de Cergy-Pontoise. Et Cergy-Pontoise, qui est quand même considéré comme la plus réussie, entre guillemets, des villes nouvelles. Je suis le premier à dire qu'on ne peut pas évaluer les villes nouvelles, on ne peut pas évaluer les villes, l'urbanité, donc encore moins mettre des notes. On n'a pas, on n'est pas comme sur TripAdvisor, on met des notes sur tout, sur les films, sur les villes, ça existe, je sais. Justement, j'ai vu pour Cergy, vous pouvez cliquer, mettre des notes à Cergy pour les équipements, l'habitat, etc. Bon, c'est évidemment un peu absurde, mais en tout cas, elle est reconnue comme une des villes les plus réussies, et notamment parce que c'est une ville qui a pris place dans un projet paysagiste sur lequel je passerai peut-être d'ailleurs un peu rapidement compte tenu des attendus de cette école de nature et du paysage, mais je l'évoquerai quand même. Alors, sans vouloir faire un trop long détour historique, je ne remonterai pas aux villes nouvelles, à la fondation des villes mésopotamiennes, grecques, romaines, etc. Je vais me contenter de remonter au temps moderne, donc à la Renaissance, puisque comme vous savez, comme les historiens que vous êtes tous, amateurs d'histoire, savent tous, les temps modernes commencent en 1453, prise de Constantinople. Et la Città Idéale a eu une influence considérable sur l'imaginaire et la pratique de la conception de la ville, de la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, la Città Idéale, c'est comme ça qu'on la représente avec cette vue, cette peinture sur un panneau sur bois qui se trouve à Urbino. Et la Città Idéale, c'est pas simplement une forme urbaine idéale, mais c'est une forme urbaine idéale pour une société idéale. Ça représente une société idéale harmonieuse. La forme idéale correspondant à la société idéale, selon une espèce d'euphorie fictionnelle d'une idée politique où le bâti architectural rencontrerait l'idéal d'une société harmonieuse. Avant ces trois images, on en verra deux autres tout à l'heure, donc la première, celle d'Urbino, qui est la plus connue, le bon gouvernement avait été déjà peint un siècle plus tôt, à Sienne, par cette fameuse fresque immense de Lorenzetti que vous trouvez dans le Palazzo Municipal de Sienne, et qui est une représentation assez étonnante, parce qu'il y en a deux, mais enfin là, je représente que il y a le bon, il y a le mauvais gouvernement, ça, c'est l'allégorie du bon gouvernement, donc je trouve ça très étonnant, à une époque où on est surtout préoccupé par la peinture religieuse, d'avoir représenté les effets du bon gouvernement sur la société. Donc, la représentation la plus connue de la Città Idéale, ce panneau d'Urbino, qui était attribué à tort à Piero della Francesca, mais ça n'a pas d'importance, c'est pas ça de certaine importance. Et puis il y en a deux autres qu'on trouve à Baltimore, et puis un dernier à Berlin, qui est bizarrement vu à travers une espèce de portique. Le plus saisissant des trois, c'est peut-être en fait celui qui est actuellement conservé à Baltimore, qui est attribué à un certain Fra Carnevale. Et c'est très frappant la manière dont, ici, vous avez deux malheureux habitants, Dans les autres figurations, il n'y a pas de, c'est des vues pures, symboliquement pures, c'est-à-dire que sans être humain, même s'il est destiné de... Ces peintures sont destinées à représenter un idéal de société donc, et de ville, mais c'est quelque chose qui a une influence très forte, et puis c'est une espèce d'image idéale où vous avez le temple, l'arc de triomphe, une espèce de colisée dans le fond, mais avec une luminosité qui n'est pas du tout ordinaire, même pour l'époque. Enfin, c'est des images qui ont été très frappantes et qui ont duré jusqu'à l'application, entre guillemets, de cette città idéale. La plus connue étant la petite ville de Pienza, en Toscane, et qui est représentée, vous voyez, comme telle. Si vous allez sur Google, Pienza città idéale, puis vous avez l'office du tourisme, ou même cette agence de tourisme qui revendique Pienza comme étant une application de la città idéale. Donc c'est pas simplement la vision des historiens, mais c'est aussi une manière d'être repris par le tourisme, de vendre Pienza comme une ville idéale. Cette vision de l'église encadrée par deux bâtiments, la façade faite par Alberti, évidemment, l'église, le site parfait, on pourrait dire, qui, pour des visiteurs amateurs d'Italie comme vous êtes et comme Olivier Gaudin l'est, évidemment, c'est une vision que vous retrouvez dans des dizaines, pour ne pas dire des centaines, de villes italiennes aujourd'hui. Mais c'est quand même considéré par les historiens de l'art et de l'architecture comme le modèle de la ville idéale. Et parmi les autres représentations de la ville idéale, vous avez un certain nombre de villes fortifiées, mais Palmanova, qui est aussi, dans les écrits, considérée comme une des città idéales, città ideali, si vous voulez faire l'accord, ou Palmanova, qui est une ville du Frioul, petite ville du Frioul, donc au nord-est de l'Italie, entre Venise et Trieste, donc idéale de ville fortifiée, avec une place octogonale parfaite, un jeu de voirie qui va du centre vers la périphérie, du périphérie vers le centre, vous voyez, correspond exactement. Et la pointe en neuf branches était dessinée par Scamozzi, qui est réputé pour avoir terminé un certain nombre d'œuvres de Palladio, donc c'était pas n'importe qui. Avec ce dessin de ville fortifiée qu'on va retrouver dans un certain nombre d'autres villes, parmi lesquelles, par exemple, Neuf-Brisach en Alsace, avec ce peu de contradiction, ce paradoxe et une contradiction entre une ville idéale, une société idéale, donc qui est censée exprimer l'harmonie, la paix, et puis à une époque où il faut se protéger de l'ennemi, eh bien, ce sont faites des villes fortifiées. Et on voit que la ville de Palmanova en Italie et celle de Neuf-Brisach en Alsace ont absolument le même dessin, qui étaient des dessins à la fois théoriques et pratiques, contre l'artillerie avec des bastions, donc un même jeu de bastions. La différence étant que Neuf-Brisach a une place centrale quadrangulaire et non pas octogonale, mais ça ne change pas grand-chose. Vous voyez cette manière aussi d'avoir une espèce d'unité. Et évidemment, cette ville-là, on ne voit pas comment elle pourrait s'étendre. Alors, évidemment, elles sont toutes étendues. Même Palmanova, qui est une petite ville, qui doit avoir 4 ou 6 000, même pas, peut-être oui, 4 000 habitants, 2 000 habitants, j'en sais même rien. Neuf-Brisach, qui est plus contenu, mais qui doit aussi avoir ses faubourgs, évidemment. Les faubourgs sont des faubourgs qui sont forcément loin des bastions, sauf si on les a démolis. Maubeuge aussi, qui est une ville fortifiée par Vauban. Bon, évidemment, Neuf-Brisach, c'est du pur Vauban, en 1699, je crois. Quand on n'a pas détruit les bastions, ça fait aujourd'hui évidemment une couronne paysagère absolument merveilleuse, ce qui est le cas de Palmanova comme de Neuf-Brisach. Et alors, j'aurais choisi de toute façon Palmanova parce que c'est vraiment, comme Pienza, le modèle de la città idéale. Mais aujourd'hui, Palmanova est plus connu en Italie ou dans le nord-est de l'Italie pour être le lieu d'un outlet, ce concept américain de vrai faux, enfin de faux village commercial, c'est-à-dire que c'est un centre commercial, comme vous voyez en bas, qui a même le culot de reprendre la forme de bastion pour donc d'un. Vous savez, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces outlets en France, il y en a quelques-uns, il y en a à Val d'Europe, il y en a peut-être même près de Blois, je ne sais pas, où c'est donc vraiment un faux village, et au lieu d'avoir un centre commercial moderne, fermé, etc., là vous avez des rues. Donc une rue ciel ouvert et puis des bâtiments qui sont en fait que des bâtiments, que des boutiques. Ce qui est étrange aussi, c'est que le logo de Palmanova Outlet Village, c'est même pas écrit en italien, reprend l'étoile de Scamozzi, qui est une ironie grave de l'histoire. Donc on a Palmanova au bout de la chaîne historique, je dirais, on a la ville, la città idéale. Et puis, ce qui est vraiment la non-ville, parce qu'il n'y a pas plus non-ville, évidemment, que ce village touristique, avec, vous voyez, cette zone de parking et l'autoroute, Venise là, Trieste là. Donc si un jour vous allez en voiture de Venise à Trieste, et ben vous verrez en gros, justement, Palmanova Outlet, et vous pourrez vous y arrêter. Mais alors surtout, allez évidemment voir la città idéale de Palmanova. Je passe très vite, évidemment. Je ne veux pas vous faire un cours. Il y aurait de quoi faire un cours sur les villes nouvelles semestrielles, pour ne pas dire double semestrielle, annuelle, dans cette école. Donc j'ai choisi certaines étapes et je saute, si je peux dire, sur le 18e et même sur le 19e. Donc tant pis pour le Doubs, tant pis pour Fourier, qui auraient eu leur place ici pour le phalanstère. Et j'en arrive au XXe siècle, le siècle qui est un siècle anti-romain, et ça sera un petit peu le développement de mon discours, c'est que tout ce qui a été fait à partir de la fin du Xe siècle s'est fait contre la ville. La ville historique, la ville européenne, la ville italienne, mais française, mais allemande, enfin la ville européenne. Alors pourquoi le XXe siècle est un siècle anti-romain? Parce que justement, au XIXe siècle, la ville qui était construite, c'est la ville de Dickens, la ville polluée, la ville des usines, la ville du smog, la ville de la tuberculose, la ville du choléra, la ville des taudis, ce qui explique que tous les théoriciens, absolument tous, de tous bords, se sont attachés à inventer des antivilles, des villes vertes, des cités-jardins, etc., etc. Et donc sur le modèle de Howard, alors le modèle de Howard, c'est un modèle pour les cités-jardins. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est pas la ville-centre avec les cités-jardins, c'est elle-même une cité-jardin. Mais déjà, pour les cités-jardins, Howard pensait qu'il fallait avoir un noyau et puis des extensions périphériques, mais reliées entre elles. Et on pourrait dire que ce schéma-là, ça pourrait être d'ailleurs le schéma de Londres avec les villes nouvelles autour, ou de Paris avec ses villes nouvelles autour. On aura maintenant des autoroutes qui relieraient les villes nouvelles, qui étaient prévues et qui étaient réalisées d'ailleurs, et avec ce qui n'a pas été réalisé, des liaisons par RER qui feraient tout le tour. Bon, enfin, on va y arriver avec le Grand Paris qui va plus ou moins réaliser cette utopie-là. Donc, parmi les anti-villes nouvelles, il y a quelque chose d'assez original, qui est la choudal idéale de ce Soria Imata, qui est un projet de la fin du 19e, qui veut répondre à l'impossibilité d'étendre les villes sur leur périphérie. C'est-à-dire que donc Howard, lui, voulait faire des pôles secondaires, puisque, par définition, si vous avez une ville sans Palmanova ou n'importe quelle ville, si vous voulez l'agrandir, il faut l'agrandir forcément sur ses périphéries. Mais alors, les périphéries ne sont que des faubourgs. Si vous pensez quand même qu'il doit y avoir une urbanité et une centralité, il faut développer donc d'autres centralités. Et sinon, il y a l'idée, on verra qu'elle a été aussi développée par certains soviétiques de la belle époque des années 20 et 30, c'est de développer cette ville linéaire. Alors il y a ce projet utopique de Soria, mais qui n'est pas utopique que ça, parce qu'il a qu'à faire 5 km d'extension de Madrid sous cette forme-là. Oui, Saint-Martin, je pense que c'est la gare maintenant de Madrid, s'appelle Saint-Martin, avec des lots. C'est-à-dire que c'est aussi tout un projet de paysage où on se dit que pour garder le contact avec la nature, eh bien, le moyen, c'est de faire cette ville linéaire. Mais bon, ça fait partie des projets plus utopiques que réalistes. Et puis, un des projets de ville linéaire aussi dis urbanisme soviétique, comme vous le savez peut-être, mais avant le stalinisme qui a tout écrasé, non seulement ses citoyens, mais aussi l'esprit, l'art de la révolution, il y a eu toute une époque dans les années 20 dite constructiviste, qui est une époque d'efflorescence extraordinaire d'architecture et d'urbanisme. On le sait en France avec les travaux d'Anatole Kopp, et qui a montré ces théories de désurbanisme, comme son nom l'indique. Il s'agit donc de désurbaniser la ville, de continuer à construire en faisant des villes nouvelles, mais d'une manière qui serait donc pas nucléaire, pas des villes avec des noyaux, mais au contraire donc des villes qui pourraient se développer. Alors là, par exemple, dans ce projet, dans certains Milutine, vous avez des bandes différentes pour vous avez un chemin de fer, puis après vous avez les usines, puis après vous avez une bande d'habitat, puis après une bande d'espace vert, puis une bande agricole, etc. Donc c'est une manière de composer selon des lignes parallèles, en plus c'est absolument différent au relief, des villes qui étaient déjà pensées comme des complexes, évidemment, fonctionnels, complets, entre les usines et l'habitat, en conservant des zones agricoles, etc. etc. Un des projets les plus connus, parce que dû à un certain Ernst May, qui est l'architecte, on verra tout à l'heure, des extensions de Francfort, dans les années 24 à 33, jusqu'à l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Donc, en 33, ou même avant, mais c'est même bizarre que le projet date de 30, parce que Ernst May a donc fait le nouveau Francfort, ses extensions, plusieurs dizaines de milliers de logements dans la vallée de la Nidal, je crois, c'est ça, est parti à l'arrivée des nazis au pouvoir et s'est réfugié en Union soviétique, mais il a déjà travaillé avant, donc ceux qui lisent le cyrillique voient bien qu'il s'agit bien de Magnitogorsk, donc... qui s'inscrit dans le plan quinquennal de l'époque avec des projets faramineux de villes nouvelles. Je crois qu'en tout, avant et après, ont été construits 1200 villes nouvelles en Union soviétique. Donc on pourrait évidemment en parler longtemps, puisque l'Union soviétique avait un projet de développement industriel très fort. Et autour des combinats, autour donc des usines sidérurgiques et autres, on a voulu construire ces villes. Et ce que propose Ernst May, c'est un peu ce qu'il avait déjà proposé à Francfort, des bandes d'habitat, toutes adossées à des petites maisons. Donc c'est un habitat mixte qui en fait est très attentif à la composition entre le construit et la nature, avec des jardins qui étaient aussi destinés à des jardins ouvriers, vivriers, pour la nourriture quotidienne. Et puis, parmi cette architecture qu'on appelle en Russie de micro-rayons, c'est-à-dire que la Russie a été la championne des grands ensembles, vous avez déjà une préfiguration des grands ensembles qui seront construits à des centaines de milliers d'exemplaires dans toute l'Union soviétique et dans tous les pays socialistes, RDA, y compris d'ailleurs même en Algérie. Les grands ensembles ont essaimé dans une grande partie du monde socialiste. Donc vous voyez une composition là qui est en grands ensembles, où évidemment c'est la négation de la ville historique européenne avec son noyau, sa place, ses équipements, et puis son développement concentrique. Là, la nouvelle pensée anti-urbaine, c'est de vouloir marier l'habitat avec les différentes fonctions et avec l'idée d'une extension qui peut être infinie. Finalement, à partir du moment où on n'est plus de centre, on n'est plus non plus de périphérie, c'est-à-dire que tout est périphérie, si on peut dire, et on oublie l'opposition entre le centre et la périphérie. Et pour dire que le siècle a quand même été bizarre, mais c'est que donc, à la même époque, donc dans les années 30, le désurbanisme a été conçu aussi bien en URSS dans le pays déjà ennemi, donc les États-Unis, c'est pas tous les États-Unis, mais la théorie de Frank Lloyd Wright, avec ce projet de Broad Acre City, qui est exposé en 34, je crois 35, au Rockefeller Center à New York, qui est un projet qui date en fait des années 20, que Wright a pu développer dans les années 30 à cause de la crise, comme tous les architectes, y compris Le Corbusier et tous les architectes du monde occidental, à partir de 1929, ont évidemment été plus ou moins au chômage. Donc, dans ces cas-là, chacun a pensé sa ville. Le Corbusier pensait sa ville radieuse. Et Wright pensait son Broad Acre City. Broad Acre, pourquoi? Parce que Acre, vous savez, c'est la mesure de surface aux États-Unis. Un acre vaut 4000 m2. Donc, l'idée de Wright, c'était de donner 4000 m2 à chaque habitant. Et chaque habitant pouvait donc développer son jardin dans une idée de communauté très forte aux États-Unis. Les États-Unis sont réputés pour leur communautarisme à tout point de vue, non seulement entre les races, mais aussi entre individus, donc avec les sociétés chrétiennes et autres. Et une vie qui est très développée, une sociabilité qui est très développée, et qui devait l'être aussi dans des nouveaux rapports anticapitalistes. C'est-à-dire que c'est ça qui est aussi très étonnant chez Wright, qui était un personnage hors du commun à tout point de vue. Quand on connaît sa vie privée, effectivement, on tremble, mais ses projets, c'est un architecte absolument prodigieux. Et pour s'opposer au communisme, il avait développé quelque chose qui pensait être très américain. D'ailleurs, Wright est réputé pour être le plus américain des Américains, et le premier grand architecte américain, même le premier grand artiste américain, ayant rompu avec l'Europe, pas comme les peintres qui avaient des influences européennes. L'architecture de Wright est absolument unique, effectivement, très américaine. Ces maisons, vous savez, les appeler maisons hussoniennes, donc du USA. Donc il a voulu vraiment prévoir un projet de société complètement américain, à l'opposé des villes comme Chicago, ne parlons pas de New York, en pensant vraiment à un mode de vie, donc une société complètement alternative, se défendant de verser ni dans l'individualisme, ni dans, encore moins évidemment, dans le communisme. Mais c'était vraiment un rapport entre l'habitat, les fonctions et la nature, avec des dessins de science-fiction assez curieux. Évidemment, tout ça a été mal compris, mal reçu, surtout à l'époque, et on a beaucoup considéré que Wright faisait l'apologie de la suburbia américaine, avec cette extension immense, centrée sur l'automobile, puisque Wright, évidemment, pensait aussi normalement à l'usage de la voiture, qui est dans l'identité américaine d'une manière qu'on ne peut pas imaginer, je dirais, de ce côté de l'Atlantique. Alors, exception dans l'anti-urbanisme et l'anti-ville, l'exemple de Sabaudia en Italie, qui fait partie. Alors, projet de paysage superbe, mais vous avez ce cours d'eau littoral. On ne voit pas bien, mais Sabaudia est là-haut. Vous avez donc un cordon dunaire magnifique. C'est pris du Monte Circeo, qui est le mont Circé, vanté par Ulysse, etc. Et un cordon dunaire, une lagune, et puis donc ce site superbe qui explique que, évidemment, Sabaudia puisse devenir un lieu de villégiature très prisé plus tard. Et bon, Sabaudia fait partie d'un projet d'assainissement des marais pontins, voulu par Mussolini, avec un projet donc de plusieurs villes, Litoria qui est devenue après Latina, qui est toujours, Sabaudia, Aprilia et Pomezia. Pomezia qui est plus près de Rome. Et ce qui est étonnant dans Sabaudia, que je vous conseille de visiter si vous allez en Italie, dans le Latium, en allant vers Naples ou vers les plages là, de Sperlonga Haute, etc., on est à 80 km de Rome, c'est que c'est une ville qui a un plan, et on pourrait dire classique, avec reprenant le cardo et les decumanus habituels des villes romaines, et puis des équipements qu'on voit ici en noir. Donc vous avez l'hôtel de ville, l'église, la poste. L'église lui manque un rôle important en Italie toujours, enfin en tout cas à ce moment-là. Et une ville dont l'architecture est restée dans son jus, ça n'a pas changé, ça c'est le jour d'inauguration, en grande pompe avec Mussolini qui avait assisté aux travaux et à l'inauguration. Et c'est une ville qui encore aujourd'hui est restée, comme on dit, dans son jus, avec des paysages à la Chirico, et qui est très nostalgique. Enfin, on pourrait dire aujourd'hui, parce que, par exemple, j'ai retrouvé des textes de Lucien Bertolucci est allé avec son père dans les années 50 et disait que c'était horrible, c'était l'architecture considérée comme fasciste. À l'époque, on mélangeait des fascistes et staliniens. Et c'est une ville qui a beaucoup souffert pendant longtemps de son statut de ville née sur le fascisme, alors qu'il y a un modèle d'architecture rationaliste, comme on le trouve pas du tout en France. Donc c'est une architecture qui n'est pas pompier, son nom c'est l'architecture rationaliste, mais c'est une architecture qui n'est pas monumentale, il vaut juste ce qu'il faut, et puis elle est très servie par son site, pardon, je vais un peu trop vite, et on comprend pourquoi elle était vite prisée par les intellectuels, et c'est la ville où Moravia passait ses vacances, Pasolini aussi, Marion Tetamacho qui avait sa maison, que j'ai connue, etc. Donc et en plus c'est la seule ville qui soit gardée dans son jus, parce que toutes les autres villes des marais pontins, celles dont je parlais tout à l'heure, Latina et autres, sont devenues des villes absolument banales, et elle est restée comme ça. Donc si vous avez un peu de nostalgie de cette architecture rationaliste des paysages à la Guiricault, allez d'urgence à Sabaudia, qui est en plus pas connue, donc pas touristique, pour un sou. Alors j'en arrive à ce qui est évidemment le gros morceau, en tout cas le cœur de ce qui devrait être le cœur de mon intervention, c'est-à-dire la modernité française et le passage entre grands ensembles et villes nouvelles. Les villes nouvelles ayant été voulues, évidemment, contre anti-grands ensembles, étant été pensées contre les grands ensembles. Alors, avant les grands ensembles, vous avez cet exemple surprenant de Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, qu'on appelait à l'époque les Basses-Pyrénées. Donc c'est un anachronisme de dire Pyrénées-Atlantiques, il faut dire Basse-Pyrénées si on veut être fidèle à l'histoire. Et vous avez cette carte postale qui semble un montage, tellement on a l'impression que ces morceaux de sucre ont été posés dans ce paysage béarnais avec les Pyrénées dans le fond. Donc c'est vrai, là aussi on pourrait dire que c'est une espèce de vision idéale. La cité idéale pour les années 50, c'est ça, quoi. C'est Mourinx. Mieux encore que Sarcelles et qu'on verra tout à l'heure, je trouve que c'est Mourinx. Et cette carte postale rend parfaitement compte de cette pensée urbaine qui, il faut le savoir, donc, est née à Mourinx. Pourquoi Mourinx? Parce que en 1951, on découvre un gisement de gaz naturel à lac. Et on décide de construire une ville pour les salariés de cette usine de lac. Et le maître d'ouvrage de l'opération est la Société Centrale Immobilière de Construction, la SIC, qui est une filiale de la Caisse des dépôts. Et les architectes qui vont concevoir cette ville nouvelle seront les mêmes que ceux qui seront appelés plus tard, avec le même maître d'ouvrage, à construire certains des grands ensembles. Et on a un témoignage tout à fait étonnant de Henri Lefebvre, qui était né à Agedmaux, donc Henri Lefebvre, le grand philosophe marxiste, post-marxiste, surréaliste, un grand esprit, né au milieu du siècle, et mort un petit peu avant, avec cette autre carte postale de Mourinx, qui était considérée comme une ville nouvelle, mais en dehors de ce qu'on appelait le plan des villes nouvelles. En général, quand on parle des villes nouvelles, c'est plutôt Cergy, Évry, Sénart, etc. Là, c'est une ville nouvelle, donc avant la politique des villes nouvelles françaises, donc c'est une ville nouvelle industrielle, mais c'est pas un grand ensemble, dans le sens que c'est une ville nouvelle complète, avec mairie, école, tout ce qu'il faut, puisqu'il n'y avait rien pour exploiter ce lac. Il se trouve que notre brave Henri Lefebvre, qui était quand même pas tout jeune à l'époque, donc il est né à Agedmaux et qui s'est interrogé d'une manière très intéressante en 1960. Il a produit un texte qui s'appelle Notes sur la ville nouvelle, dont je vous recommande la lecture. Et Lefebvre était déjà l'homme en 60, il n'était pas encore l'homme du droit à la ville, mais c'était déjà le seul ou le premier des philosophes à s'intéresser à la ville, en France, à s'intéresser à la ville, à l'urbain. L'urbain, c'est lui, le concept d'urbain, on le doit à Henri Lefebvre, c'est-à-dire de passer d'urbain au sens de, que c'était un adjectif, à l'appeler l'urbain, On le doit à Henri Lefebvre, donc a développé tout le courant de la sociologie urbaine. On peut dire que c'est le fondateur de la sociologie urbaine en France, avec un parcours très intéressant, étant marxiste, mais ayant renié le communisme, s'étant frotté aussi à la psychanalyse et au surréalisme, donc un parcours très intéressant. Et Lefebvre, qui voit sous ses yeux, donc en tant que voisin, la ville de Mourin se développer, se dit, mais est-ce que c'est ce que veulent les hommes? Est-ce que de construire ces bâtiments qui sont très confortables, qui auront tous, comme on disait, l'eau chaude sur l'évier, est-ce que c'est ce que veulent les habitants? Est-ce que par rapport à la vieille ville, les vieilles pierres comme à Mourin, qui sont à Jetmo, est-ce que les gens vont pas être perdus, vont pas avoir un manque d'identité? Est-ce que, à l'époque, ils croyaient encore au grand fer soviétique, donc est-ce que finalement, le grand fer soviétique ferait mieux ou pire que nous? Donc il est tout à fait fasciné, il se pose des questions qui valent la peine d'être lues parce que il fait vraiment le pont entre la question de l'usage fonctionnel et de l'usage spirituel. C'est-à-dire qu'il se dit, mais l'homme a besoin de nourriture terrestre, donc pas chrétien pour un sou, notre Henri Lefebvre, mais il se pose là quand même la question, hein, un peu comme Heidegger aussi, qui à la même époque, à qui on doit aussi toutes le concept d'habiter, est-ce que la vie se résume à des usages fonctionnels séparés, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspirations, et est-ce que ces espaces nouveaux, sans histoire, pourront satisfaire la population qui va y habiter? Au classique, maître d'ouvrage de Mourinx sera aussi le maître d'ouvrage des premiers grands ensembles, dont Sarcelles, qui est prototype du grand ensemble, avec cette architecture de barres et de tours qui n'est pas due au hasard, mais c'est un grand équilibre, justement, avec l'idée fondamentale d'introduire l'égalitarisme et la démocratie dans le grand ensemble. Ça va vous paraître fou, justement, le fait qu'il n'y ait pas de centre et que les bâtiments sont tous égaux. Alors, il y a une différence entre la barre et la tour, mais il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'orientation. Évidemment, ça s'oppose complètement à ce qu'était la ville historique, la ville européenne. Il n'y a pas de rue, il n'y a pas de devant, il n'y a pas d'air aux immeubles. Les bâtiments sont orientés tous de deux manières pour avoir disposer de soleil. Et puis, vous voyez, cette répétition qui peut paraître à l'infini par rapport à la ville de Palmanova ou n'importe quelle ville idéale, qui même Paris ou même Blois, dont on ne peut pas penser qu'elle puisse s'accroître sans des périphéries qui seront franchement différentes de ce que pouvait être la ville-centre. Et bien ici, on peut imaginer, d'ailleurs c'est ce qui s'est fait, que le grand ensemble se continue de la même manière, avec la même géographie, avec la même topologie, selon la même topologie, avec les mêmes typologies de bâtiments, comme ça, à l'infini. Alors, les villes nouvelles, nous voilà enfin aux villes nouvelles, dont, comme je l'ai dit, je ne parlerai pas autant que ça, parce que je ne vais pas vous faire le retour sur les villes nouvelles. Je laisse ça à celui qui, lui, mérite d'avoir ce titre de retour sur les nouvelles, donc le Vadelorge, qui a réaliser ce très bel ouvrage sur les villes nouvelles. Donc les villes nouvelles, quand on parle des villes nouvelles, alors, bon, évidemment c'est les villes nouvelles franciliennes, mais j'oublie pas Villeneuve d'Ascq, qui s'appelait l'île Est dans sa formation. J'oublie pas aussi Marignane, donc les villes nouvelles de l'étang de Berre. Mais là, est-ce que c'est par phénomène parisianiste qu'on retient surtout, donc c'est les cinq villes nouvelles que vous connaissez tous, ne serait-ce que parce que vous êtes tous allés à Marne-la-Vallée, au bout de Marne-la-Vallée, à Disneyland, et que ce qui permet à la France d'être le premier pays touristique au monde, c'est-à-dire vous enlevez Disneyland, la France perd sa position de premier pays touristique au monde. Bon, moi je suis très fier, je ne suis jamais allé à Disneyland, mes enfants non plus. Et je pense qu'ils sentent qu'ils ont été réprimés. Mais enfin, non, ils sont grands, ils pourraient y aller tout seuls. Ils ne sont pas allés. Donc le Cergy Pontoise qui est... Je parlerai aussi tout à l'heure de Marnavel à propos de certaines photos. Et puis un peu d'Evry qui a des ambitions dont tout le monde connaît le maire, Manuel Valls, enfin l'ancien maire, Manuel Valls, les autres maires des autres villes nouvelles étant moins connus. Alors, à part Marne-la-Vallée, toutes les villes nouvelles, sauf erreur, sont retrouvées dans le droit commun, c'est-à-dire que ces villes nouvelles, donc décidées, comme on le sait, par le général de Gaulle et Paul de Louvrier, de Gaulle survolant en hélicoptère la banlieue et disant à Paul de Vrier, foutez-moi de l'ordre dans ce bordel. Oui, cette scène bien connue, eh bien, ces villes nouvelles ont été construites en un temps très, très rapide, en quelques années, quelques dizaines d'années, si on veut. Donc on retrouve notre Bernard Hirsch sur cette affiche qui a été une exposition qui a lieu il y a 2 ans à l'Arsenal à Paris avec un catalogue très beau réalisé par un certain Lionel Engrand que je vous conseille pas parce qu'il paraît-il qu'il était épuisé, mais enfin si vous le trouvez dans la bibliothèque, peut-être qu'il figure ici. Donc, c'est-à-dire une grande opportunité pour le Cergy Pontoise d'être exposé à l'Arsenal. L'Arsenal, c'est le centre d'exposition de l'architecture de l'urbanisme parisien, et c'est toujours évidemment parisien. Et là, c'est la première fois qu'une ville nouvelle pouvait être exposée, et la ville Paris n'y croyait pas, et ça a eu un succès énorme. Le catalogue de son était épuisé, mais il y a eu énormément de visiteurs pour une très belle exposition. Et mon ami Lionel Engrand, d'ailleurs, n'en revenait pas que c'est eu autant de succès. Alors, on va un peu parler justement du paysage à propos donc de Cergy Pontoise, puisque la mission d'aménagement menée par Bernard Hirsch avait fait le tour des villes nouvelles anglaises et aussi de Tapiola, qui, dans les années 60, était réputée pour être une ville particulièrement réussie. Enfin, Tapiola, c'est un quartier de la ville nouvelle d'Espoo, avec deux O, Espoo, je ne sais pas si on pense d'Espoo, qui est une ville nouvelle tout près d'Helsinki, et qui est un peu surestimée. Moi, je sais que quand j'ai vu Espoo, j'ai dit finalement, c'est pas mieux que Cergy Pontoise, donc on n'a pas à avoir honte. En revanche, Tapiola, c'est vrai que c'est un peu différent, et c'est pas étonnant que Tapiola ait pu fasciner notre Bernard Hirsch, qui avait dit. Dans son livre, il a écrit un livre où il raconte toute l'histoire à la première personne de Cergy Pontoise. Il avait déclaré, page 40, c'est à Tapiola, en Finlande, que nous avons trouvé l'expression la plus réussie de l'urbanisme contemporain. Rajoutant, la piscine de Tapiola m'avait tellement plu que je voulais la reconstruire telle qu'elle à Cergy. Alors bon, vous voyez la piscine de Tapiola, et qui évidemment, on est en Finlande, donc. Pays du Nord où il fait froid 9 mois sur 12 et les 3 mois qui restent, tout le monde se baigne tout nu dans la piscine où il n'y a pas de barrière, pas de... c'est assez étonnant. Et autour d'un plan d'eau, alors l'idée du plan d'eau, on verra que c'est évidemment un thème qui est repris dans plusieurs villes. Et le paysage de la Finlande étant ce qu'il est, évidemment c'est facile, un beau paysage en Finlande. Il y a des pins partout, des forêts partout, donc on peut construire dans la forêt, ce qui ne se fait jamais en France, qui ne se fait plus, qui est interdit, qui se fait un peu quand on a aménagé certains châteaux, mais qui ne se fait plus maintenant. Le thème, quand je dis que le thème du lac a été repris, vous avez Tapiola en Finlande, et puis vous avez ce quartier aussi très étonnant. Alors on peut discuter ça, si c'est une ville ou pas, c'est Léour à Rome. Et Ours, ça veut dire exposition universelle Roma 42, et parce que c'était prévu pour l'exposition universelle de 1942, projet pharaonien, mussolinien, qui a donné lieu à des très beaux bâtiments, et puis après une ville qui s'est développée dans les années plutôt 50, autour d'un lac. Donc le lac, c'est le laguetto, comme ça, la pièce d'eau, évidemment, ça remplace un petit peu l'agora ou la place des villes classiques. Alors, quand Bernard Hirsch dit qu'il a été fasciné par la piscine de Tapiola qui voulait reconstruire l'identique, évidemment, pas du tout, parce que Vous arrivez en France, on va vous dire, mais vous ne rendez pas compte, on ne peut pas faire une piscine comme ça, on ne peut pas la faire dehors, il faut la faire dedans. Alors, ce qui est un paradoxe, parce qu'ici, il fait moins 20 degrés en hiver, il fait froid tout le temps, etc., sauf deux mois de l'année. Et puis à Cergy, évidemment, donc à Cergy, vous avez effectivement la piscine qui est au milieu de la dalle, près de la préfecture, etc., mais c'est une piscine banalissime, comme vous en trouvez partout. Donc Bernard Riche, évidemment, n'a pas pu être suivi pour ça. Autre chose qui ressemble quand même entre Tapiola et Cergy, c'est que, d'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente, c'est une autorité publique, et Bernard Riche en parle lui-même, que l'architecture de cette tour EDF à Cergy, on voit derrière la préfecture, et puis à gauche, en vert, là, le bâtiment de l'ex-syndicat d'aménagement, le bâtiment ressemble un peu, vous voyez, que cette tour en haut de la tour des ascenseurs. Mais Cergy Pontoise était à l'avant-garde, vous voyez, de la mobilité avec cette espèce de petite Isetta, cette petite mobile voiture électrique qui n'a pas fait long feu devant la préfecture due à l'architecte Bernard, dont j'oublie maintenant le prénom, avec cette ziggourat à l'envers, parvis à l'envers, qui est un bâtiment d'ailleurs pas mal. Donc les villes nouvelles, et alors on a aussi un exemple, là, j'y pense en vous le montrant, de passerelle piétonne, puisque plus peut-être encore que les autres villes nouvelles, il y a une séparation entre les fonctions, donc entre surtout les voitures et les piétons, très importante, et on peut circuler dans tout le centre de Cergy, enfin marcher plutôt dans le centre de Cergy, ce qui est très bien pour les enfants, avec une voirie distincte des piétons. Donc cette manière de renier la rue, évidemment, fait qu'on a un urbanisme qui maintenant est devenu plutôt obsolète, avec l'urbanisme de dalles, et il y aura une image de dalles tout à l'heure, et c'est très difficilement de casser les dalles. En tout cas, les villes nouvelles ont voulu être à l'avant-garde de tout ce qui se faisait en manière d'urbanisme, y compris donc cette circulation avec cette petite voiture électrique dont il a dû avoir un exemplaire pour le préfet et encore. Qu'est-ce qu'il en reste maintenant? Évidemment, pour tout le centre, enfin les centres, parce que vous avez... C'est intéressant, Cergy, parce que la ville s'est développée de manière un petit peu linéaire, si on peut dire, avec des stations de RER, autour de stations de RER, Cergy Pontoise, Cergy Saint-Christophe, et puis la dernière, dont j'oublie le nom en ce moment... et des quartiers de plusieurs générations, mais des quartiers qui ont tous, comme on dit, vieilli. Pourquoi? Parce que des problèmes de population, des problèmes de délinquance et des problèmes de paysage urbain avec une architecture postmoderne qui a très mal vieilli, il faut le dire. C'est-à-dire que l'architecture postmoderne a plus mal vieilli que l'architecture moderne, parce que l'architecture moderne dite brutaliste, donc des années 50-60, le béton brut, plus épuré, avec des formes corbusiennes peut-être plus dures, mais à mon avis moins vieillies, que tout ce fatras de tôle qui évidemment a rouillé, etc. Et puis cet éclectisme. Alors le pire, c'est que Bernard Riche revendiquait cet éclectisme, ce qu'on reproche aux villes nouvelles. On le reproche pourquoi? Parce que les villes nouvelles se sont faites en différentes tranches, avec une diversité de commandes faites aux architectes. Donc, en plus... L'idée, c'était de s'opposer au grand ensemble qui était réputé être trop homogène. La diversité architecturale était vécue comme un plus. Alors qu'après, c'est l'inverse. On a, vous voyez, si vous pensez à... Je prends un quartier comme la Zakrivbouche à Paris, où là, vous avez au contraire des contraintes très fortes d'homogénéité, de gabarit, de matériaux, avec des théories des lots ouverts ou lots fermés, comme celle de la théorie des lots ouverts de Porte-Jean-Parc, mais n'empêche que, et avec des prescriptions... À cette époque-là, non, on croyait au contraire que diversifier, c'était mieux. La diversification, quand c'est la pas très bonne architecture, c'est malheureusement, ça passe moins bien. À Évry, c'est une autre problématique. Vous avez donc, ça c'est une image des pyramides, d'ailleurs on ne se rend pas compte que tout à fait c'est des pyramides. Et Évry a l'idée, je ne sais pas si c'est dû à Manuel Valls d'ailleurs ou à... ou à son adjoint à la culture, à l'urbanisme, et de vouloir être labellisé patrimoine du XXe siècle. C'est-à-dire que la ville considère qu'elle représente différentes tendances de l'architecture du XXe siècle, enfin, même pas du XXe siècle, mais des années 70. Et il y a effectivement quelques beaux morceaux, avec peut-être la cathédrale de Botta, c'est peut-être ce qu'il y a de pas mal, avec cette image aussi d'Henri Seriani, à Évry-Courcouronnes. Et d'autres, donc, la ville demande d'être labellisée patrimoine du XXe siècle. Vous savez que c'est un label qui est un label émis par le ministère de la Culture, mais qui est simplement un label. C'est pas ni une inscription d'un classement monument historique, donc ça ne protège pas les bâtiments. Il y a d'ailleurs plusieurs bâtiments déjà labellisés qui sont démolis, en tout cas pour lesquels la démolition a été demandée. Mais c'est en tout cas un processus de reconnaissance. Et Évry voudrait par là montrer que c'est un exemple d'architecture des années 70. Donc les villes nouvelles ont, comme toute création nouvelle, des difficultés d'identité, c'est-à-dire sur quoi s'appuyer. Il y a des sites, j'ai eu tort de ne pas me montrer le site de Sergy-Pontoise avec les Boucles de l'Oise, qui est quand même un très beau site, même si tout ce qui s'est construit a été construit sur la plaine à betterave, évidemment, parce que vous avez des très beaux sites, mais on ne touche pas aux vallées, et on construit sur la plaine à betterave, parce qu'il y a des opportunités foncières, et on peut acheter au Serre et Allier, qui était déjà riche, des hectares entiers, pour les enrichir encore plus, et qui nous pollue maintenant avec le glyphosate, et ça, vous êtes en courant de cette histoire actuellement, avec le procès fait par cette mère à Monsanto. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est Beaufil. Enfin, problème, pas un problème. Problème d'identité. Et les villes nouvelles, différentes hauts fonctionnaires, dont Jean-Eudes Roulier et autres, ont l'idée de faire appel à Ricardo Beaufil, qui construisait différemment en Espagne, en Catalogne. À l'époque, la Catalogne était espagnole, n'est-ce pas ? Pas encore indépendante, mais ça va pas durer. Et donc on peut dire Catalogne. Et le Beaufil arrive en France, alors jeune fringant, vous n'avez pas connu Ricardo à l'époque, mais vraiment très beau garçon, et qui propose cette architecture qui séduit tout de suite les responsables des villes nouvelles et qui voit là la manière dont on pourra donner une identité de ville nouvelle. Donc évidemment, le paradoxe, c'est qu'on va donner une identité de ville nouvelle avec une architecture qui est évidemment passéiste, dont on va pouvoir discuter des références. Si on est gentil, on va dire qu'elles sont néoclassiques. Si on l'est moins, on va dire qu'elles sont staliniennes. Là, vous avez un exemple de... Ça pourra vraiment être de Beaufil. Je ne sais pas si vous connaissez Antigone à Montpellier, mais c'est à peu près comme ça. Donc ça, c'est une photo de Kiev, comme il est écrit sur la photo. Et puis même, on pourrait dire aussi fasciste, même si beaucoup d'histoires de l'architecture ont dit qu'il n'y a pas d'architecture stalinienne, d'architecture fasciste. Il n'y a que des architectures de la période stalinienne ou des architectures de la période fasciste. Ce qui est assez vrai, parce qu'il y a eu une chantier monumentale, par exemple celle de Piacentini à Rome, mais il y a d'autres architectes qui sont pas du tout, enfin, même s'ils adhéraient au fascisme, c'est ce qui différencie le fascisme du nazisme, c'est que vous n'avez aucune architecture nazie qui ne soit pas pompier, alors que ce n'est pas le cas pour l'Italie. Alors, pour de Léour, vous avez ce magnifique Palazzo des Congressi di Libera, qui est absolument un chef-d'œuvre. Et puis, ça, en revanche, c'est vrai que c'est plus pompier, le Palazzo de la Civiltà romane, le Palais de la Civilisation romaine, qu'on appelle le Colisée carré, qui est très monumental, ne serait-ce par ses statues, qui font que c'est c'est un ode à l'architecture l'Italie mussolinienne, plus qu'à l'architecture rationaliste. Donc, architecture de Ricardo Beaufil, dont on a des exemples dans trois villes nouvelles. Cergy, qu'on a vu tout à l'heure, Marne-la-Vallée et puis Saint-Quentin-en-Yvelines. Et par l'ampleur des programmes de plusieurs centaines de logements, il n'y a pas de doute je pense que beaucoup de gens, à part peut-être moi Évry, parce qu'Évry n'est pas son Beaufil, la cathédrale de Botta serait peut-être l'image de la ville, mais sinon, ce qui représente le mieux les villes nouvelles, c'est peut-être, chacune des villes nouvelles, c'est peut-être l'architecture de Ricardo Beaufil. Donc on a une série de photos réalisées par Laurent Cronenthal, qui aurait pu être là, puis qui finalement n'en a pas pu, qui a eu l'idée de photographier ces architectures, notamment de Ricardo Beaufil, sur un thème qu'il appelait très joliment « Souvenir d'un futur », en montrant donc des personnes âgées dans ces lieux nouveaux, avec le contraste entre effectivement ces gens qui ont l'air de regarder leur futur, pour des architectures qui sont vers le futur, ces gens qui avaient 30 ans, 40 ans quand ces bâtiments ont été construits, qui ont maintenant, évidemment, ont pris 30 ou 40 ans de plus. Donc vous voyez, là, quand on... Je ne sais pas si vous connaissez ce bâtiment d'Abraxas à Marne-la-Vallée. C'est tout à l'entrée de Marne-la-Vallée. On voit très bien en plus aussi de l'autoroute. Quand on va à Val d'Europe, quand on va à Disneyland, ces espaces donc pyrénéens, ça a énormément choqué à l'époque. Les architectes français se sont jetés contre. Bofill a été vraiment traîné dans la boue, parce qu'il manque ses références fascistes, staliniennes, néoclassiques, etc., reniant tout ce que l'architecture française avait pu inventer. Mais un certain succès auprès du public. Pourquoi ? Parce que le public était fatigué du béton brut et trouvait là des références historiques. Alors, c'est un peu idiot d'avoir cette architecture pour faire des HLM, même si tout n'est pas un HLM, il y a aussi l'action de propriété. Des petits logements, souvent mal foutus, mais avec effectivement une expression et puis un matériau qui a vieilli bien, parce que Ricardo a inventé le béton architectonique, hein, et un béton teinté dans la masse, et qui résiste plutôt bien aux... Oui, ces photos ont été faites il y a l'année dernière, disons. Donc un béton architectonique qui résiste plutôt bien à l'âge, au vieillissement, ce qui n'est pas le cas, évidemment, de nombreux grands ensembles, y compris même du béton brut. Ça, c'est la partie en accession de propriété, qu'on appelle le théâtre. Bon, ça vaut la peine d'être vu. Et ces espaces, qui sont effectivement très spectaculaires, très pyrénéens, et c'est pas étonnant que ce décor, qui est un peu cauchemardesque, il faut le dire, ait été choisi par Terry Gilliam pour ce film culte, qui est aussi votre film culte, n'est-ce pas, messieurs, dames, Brésil. Et quand on voit... Enfin, ça, vraiment, pour moi, c'est le film cauchemardesque par excellence, Brésil, film terrifiant, magnifique, au demeurant, et qui était tourné, dont les extérieurs ont été tournés en partie, donc à Marne-la-Vallée, dans les espaces d'Abraxas. Là, on est à 50 ans en Yvelines, avec deux architectures de Bofill, enfin un même quartier, mais deux types de bâtiments très différents. Les arcades du lac et puis l'autre, là. Enfin, cette série est très belle. Alors, ces photos, vous avez dû les voir parce que Laurent Conatel était énormément publié. Elles ont été exposées dans le métro, dans des galeries, etc. Je ne crois pas qu'il ait encore fait d'ouvrage, mais en tout cas, elles ont été très, très montrées et à juste raison, parce que c'est un technicien, il travaille avec un matériel considérable, des formats énormes. Donc ça donne des très belles photos. Et on en arrive, vu l'heure, à... Alors là, c'est plus l'antiville moderne, mais c'est vraiment l'antiville tout court. C'est-à-dire ce que tout le monde considère, à part un certain nombre de pervers... architecte ou philosophe ou sociologue comme étant la ville du futur, c'est la ville émergente, la ville, l'antiville de Las Vegas. Effectivement, pour tout le monde, c'est l'antiville. On ne peut pas dire le contraire. Pourquoi c'est l'antiville ? Parce que c'est même pas à cause de sa fonction de casino. Je ne fais même pas allusion aux événements tragiques d'il y a trois jours. Parce que c'est la ville de la consommation. J'ai d'ailleurs appris à propos de mon événement un jour qu'il y avait 150 000 chambres d'hôtel à Las Vegas. 150 000. Vous avez des hôtels qui ont 2000 chambres. Hein. C'est 3 000 même, je crois, il y a que 3 000 chambres. C'est absolument impressionnant. Donc finalement, c'est que des hôtels et des casinos. Donc avec tout ce qui va avec. Et autour, quand même, des lotissements de... plutôt des gens d'un certain âge, d'ailleurs. Donc vous allez, je ne sais pas si vous connaissez Las Vegas, mais dans ces casinos, vous avez toutes ces personnes de mon âge et de celui d'un certain nombre de parts d'entre vous qui sont là avec les machines à sous, comme ça, ils passent leur journée pour les machines à sous, avec leur bière. C'est assez terrifiant. Mais au deuxième degré, ça peut être... En tout cas, ça existe. Et Las Vegas Il y a unique au monde, même s'il y a des copies en Chine. Mais évidemment, ça a donné le modèle à plein d'autres formes d'urbanisation, comme ce centre commercial de plan de campagne entre Aix et Marseille, qui est une zone immense, qui est alors là le nom d'urbanisme par excellence, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça n'existe pas au point de vue légal. Or, si des premiers constructions ont été écrits, c'est le parangon, je dirais, de tous ces centres commerciaux qui viennent partout autour de toutes les villes de France aujourd'hui. Donc, c'est plus grand, mais c'est pas. C'est. Voilà, simplement. Comme c'est plus grand, il y a plus de densité de fréquentation, donc plus de choix. Et un sociologue pervers comme Jean-Samuel Bordreuil, effectivement, il a découvert que, de fait, eh bien, pour des gens qui ne savent pas que faire le week-end, pour des jeunes pour qui c'est trop cher d'aller à Marseille ou à Aix, etc., eh bien, ils vont là, ils se retrouvent, ils consomment pas, on leur fout la paix, ils draguent, ils font ce qu'ils veulent, etc. Donc, de fait, ces espaces qui sont, on pourrait dire, hideux, on verra comment ils ont été pris comme exemple de la France moche par Télérama, mais ces espaces qui sont des non-lieux pour Marc Auger, peut-être des hyper-lieux pour Michel Lussault, je ne sais pas, mais sont de fait, réussissent à être appropriés, comme disait Lefebvre, qui était un des premiers à utiliser ce mot, de fait, sont réussi à être appropriés par les populations qui y vont. Parce que, qu'on se le dise ou pas, qui parmi vous n'est jamais allé dans un des centres commerciaux, n'est jamais allé chez Ikea? Si vous n'êtes jamais chez Ikea, je vous remets une médaille, mais tout le monde est allé chez Ikea dans ces centres commerciaux. Et où? Parce qu'il y a un centre commercial. Donc, de toute façon, tout le monde y va. Même les habitants des centres-villes y vont. Peut-être pas Olivier Godin, lui qui est très snob, et puis qui n'a pas de famille, il n'a pas acheté encore des meubles chez Ikea, mais moi, chez Ikea, j'y suis allé. Je vais m'aller Ikea à Rome, figurez-vous. Je vais m'aller dans deux Ikea différents à Rome. Donc, vous rendez compte, c'est plus de la perversion, ça devient c'est du vice. Et ces espaces-là sont de fait de la ville sans urbanisme, c'est la ville qui se fait. Alors, la ville qui se fait, l'urbanisation sans urbanisme, c'est le titre d'un ouvrage de Bénédicte Grosjean, c'est-à-dire que c'est toute cette ville qui, du fait, échappe à la pensée urbaine. C'est-à-dire que c'est quand même impressionnant, quand vous regardez ce qu'est la France aujourd'hui, l'Italie aujourd'hui, un peu moins l'Allemagne, un peu moins l'Angleterre, mais ne parlons pas des États-Unis, puisque le modèle des États-Unis, eh bien, tous ces quartiers nouveaux, de fait, sont des villes qui sont faites sans qu'on les ait voulues, qui sont légales dans le sens qu'elles ont été permis de construire. Il y a des maires, évidemment, qui ont été achetés par les groupes commerciaux, puis ça, ils le revendiquent pas, mais enfin, tout le monde le sait, et autres. Et aujourd'hui, on essaie de les contenir, mais c'était fait. La problématique des entrées de ville est au premier plan de l'agenda politique de ces messieurs. Et c'est de fait la ville qui se fait. C'est-à-dire qu'on peut lutter contre, on peut être contre, elle se fait quand même. Évidemment, j'allais dire que c'est un problème de démocratie, un problème de politique publique, mais elle se fait. Alors, après, il y a beaucoup d'urbanisme qui sont attelés. Il y a ce qu'on appelle la città diffuse. Il y a quelques temps, j'étais justement en Vénétie, non pas dans le Frioul, mais justement entre Padoue et Venise. Et j'ai vu ce que c'est que cette. Là, c'est le Salento, encore une autre région, mais la città diffuse, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez des maisons partout, des usines partout, des routes partout, des camions partout. Et peu de paysages, parce que. Mais c'est très agricole aussi. C'est-à-dire que c'est une espèce de mitage généralisé qu'on veut éviter en France. Mais et en même temps, c'est ce qui fait la richesse économique de l'Italie du Nord. C'est une espèce de diffusion, comme ça, généralisée. Vous avez des petits artisans, des petits industriels, un petit peu partout. Alors, il y a différentes théories. L'entre deux, ça, c'est un certain Sievert qui a théorisé cette ville diffuse, mais qui appelle Thyssenstadt, donc entre deux villes pour la Ruhr. La ville émergente, donc c'est plutôt la plan de campagne et autres, un programme de recherche qui date déjà d'il y a 20 ans. Et Corboz en Suisse, donc Folea qui parle de la ville archipel, qui est reprise telle par le maire de Rennes actuellement. C'est-à-dire qu'on parle de ville archipel pour Rennes. Donc toutes ces approches de la ville, la ville n'ayant pas été pensée par les urbanistes et les politiques, elle est maintenant pensée par les chercheurs en urbanisme qui essayent de la comprendre pour la combattre ou pour l'approuver, ça dépend un petit peu. Donc là, aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on en est en France à penser à des villes nouvelles. Les villes nouvelles, c'est bon pour la Chine, effectivement. Quand vous voyez l'expansion des villes chinoises, quand vous voyez, même, vous avez vu ces images de villes comme ça, champignons. Alors je comprends que la ville puisse penser à des villes nouvelles. Nous, on n'en est plus là du tout. On en est à penser la manière dont on va s'occuper de nos centres-villes et dont on va pouvoir équilibrer, rétablir de l'égalité dans les territoires entre les centres et les périphéries. Avec cet ouvrage de ce géographe très contesté, mais dont on a énormément parlé, il avait écrit un premier ouvrage qui s'appelait « Fractures urbaines », c'est ça ? Et là, « La France périphérique », où la France périphérique, il en fait un concept, c'est-à-dire que c'est la France des marginaux, ou la France la France des marges, mais les marges au sens des marges des centres. Donc c'est aussi bien ceux qui n'ont pas choisi d'habiter dans le périurbain, ce qu'on appelle le périurbain subi, mais ceux qui choisissent d'habiter en périurbain, ceux qui choisissent d'habiter une maison, plus ou moins grande selon leur revenu, mais qui choisissent d'habiter une maison, qui choisissent d'habiter en dehors des centres. Et cette France périphérique, elle est en partie celle qui vote Front National, bon, problématique depuis 2002, préoccupe beaucoup les géographes, alors là, les sociologues, etc., les politistes. On a accusé le périurbain de voter Front National, mais c'est tout simplement parce que, étant donné que le périurbain est devenu le territoire des ouvriers, les ouvriers votant Front National, le périurbain vote Front National. Donc c'est pas l'effet d'être loin du centre qui fait qu'on vote Front National, c'est évidemment beaucoup d'autres causes. Donc voilà, c'est une préoccupation évidemment un peu de tout le monde de penser à cette manière dont là il y a une France périphérique par la société et par la géographie. Donc c'est pas la même chose, parce qu'évidemment il y a aussi une France périphérique riche. Je dirais même le périurbain est considéré souvent comme étant les banlieues chics des villes. Donc il faut se méfier quand on parle du périurbain. Si c'est un périurbain pauvre ou un périurbain riche, il y a plutôt un périurbain qui est riche, avec des banlieues pavillonnaires plutôt aisées. Et il y a un périurbain lointain, ce qu'on appelle plutôt maintenant les campagnes urbaines, où le terrain étant moins cher plus loin, les habitants qui peuvent habiter le centre et pas habiter les premières couronnes sont obligés d'aller habiter plus loin. Donc c'est toutes ces problématiques maintenant du périurbain qui sont importantes. Pourquoi ? Parce que le périurbain, c'est une expression qu'on considère aussi comme impropre, parce que le périurbain fait penser qu'il y a un urbain et puis une couronne périurbaine. Et on sait bien maintenant que tout ce qui est périurbain, enfin tout ce qu'on appelle encore périurbain ou campagne urbaine, qui est une expression que je préfère parce que ça rend bien compte de la qualité de campagne, que ces gens recherchent, tous les gens qui habitent les campagnes urbaines recherchent la campagne. Alors quand on leur dit qu'il n'y a pas de la campagne, eh bien, c'est quand même plus de la campagne que des paysages périurbains. Et que tous ces territoires-là, en fait, sont interdépendants les uns des autres, avec des petites centralités, des petites... Oui, il me reste 5 minutes, je sais, oui, comme d'habitude. Mais c'est des territoires qui sont essentiels, parce qu'ils habitent, alors selon la manière dont on compte, parce que justement, c'est un gradient, il n'y a pas de première couronne, deuxième couronne, on passe de l'un à l'autre sans rupture, il n'y a pas de frontière, c'est donc un gradient. Et c'est des espaces où habitent entre un tiers et un quart des habitants de France, français ou pas, mais en tout cas, donc c'est très important. Et la manière dont l'élite bien pensante dont nous faisons tous partie, sauf moi qui suis, comme je l'ai dit, un pervers, mais cet article de Télérama, ou en tout cas on a tous entendu dire et donc lu cet article de Télérama qui était paru, je crois que c'était en 2010, j'ai même perdu la date, à la France moche, c'est-à-dire que tout d'un coup, Télérama, 10 ans ou 20 ans après que ça existe, se met à trouver horrible, ce qui évidemment, c'est un point de vue, est horrible, ces espaces d'entrée de ville, de stations-service, de centres commerciaux, d'enseignes lumineuses, qui sont des répliques des enregistrés sous de Las Vegas, qui ont envahi plus ou moins le monde, même l'Italie, qui reste un pays d'identité urbaine très forte. Les périphéries de toutes les villes italiennes sont un petit peu envahies aussi par cela. Toutefois, étant donné que ces paysages sont non pas forcément ceux qui sont produits par vous et moi, mais en tout cas qui sont voulus, qui sont adoptés, qui sont choisis, est-ce qu'il ne faut pas les considérer comme le nouveau paysage vernaculaire d'aujourd'hui, donc à la suite de ce livre que les étudiants qui sont dans la salle ont évidemment pour livre de chevet, donc tous les ouvrages et les articles de John Jackson sur le vernaculaire. Cette couverture est un petit peu mal choisie parce qu'elle présente un paysage idyllique, alors qu'au contraire, pour Jackson, le paysage américain idéal, c'est plutôt celui-là, quoi. C'est plutôt celui des mobile homes ou des caravanes. Jackson va considérer que le paysage vernaculaire, c'est le paysage du peuple, le paysage que fabrique le peuple, pas avec les moyens qu'il a, donc en habitant sur des zones de mobile home, et que l'autoroute, c'est le paysage américain par excellence. Donc je pense qu'il faut, si on veut justement améliorer tous ces paysages, il faut les réinvestir intellectuellement, il faut que la pensée des architectes urbanistes les réinvestissent, et des sociologues les réinvestissent, il faut considérer que ces paysages sont là, existent. Et au lieu de toujours les stigmatiser, de dire qu'ils sont moches, eh bien, il faut les étudier. Parce que pourquoi ils sont moches? Qu'est-ce qui est moche? Ce qui est moche, c'est la pauvreté. Que, évidemment, entre ce lotissement qu'on peut imaginer comme étant un lotissement populaire, et puis ce lotissement sur lequel j'avais travaillé quelques années dans la Annecy-le-Vieux, qui est la commune chic de la périphérie d'Annecy, où vous avez des grosses maisons sur 2000 mètres carrés, très belles maisons, avec maisons d'architectes, BBC, etc. C'est une différence de classe. Donc quand on stigmatise le pavillon, on stigmatise ça. Mais ça, on trouve ça très bien, c'est très joli, avec des haies, des pépiniéristes, des interventions de paysagistes, pas paysagistes comme vous, paysagistes pépiniéristes, si je peux dire. Mais vous voyez, avec de l'argent qui est mis, de l'argent dans le terrain, dans le choix de la commune, le choix du terrain, le choix de l'architecte. Donc c'est des différences de classe. Donc pourquoi est-ce qu'on se dirait que ça c'est moche et que ça, ça l'est pas? Si on admet le pavillon, on admet tous les pavillons. Et je vous renvoie pour cela aussi à ce petit livre que Éric Chauvier, anthropologue, a écrit contre Télérama, c'est-à-dire que en réaction à cet avis, de ce jugement de la France moche, Éric Chauvier, qui s'est trouvé habité dans un lotissement périurbain de Bordeaux parce qu'il était universitaire et qu'il n'a pas vraiment choisi, pour sa culture, il n'avait pas de raison d'habiter dans un pavillon, il s'est trouvé habité là et il a été assez outré de la manière dont Télérama a pu juger la France moche et les pavillonnaires en disant qui sont-ils ces journalistes centralisés pour décréter la laideur de notre périurbanité. C'est-à-dire que si vous lisez ce petit livre vraiment qui se lit en une heure, qui est un peu de gros article qui coûte moins de 10 euros, que je vous recommande, c'est très intéressant parce que c'est très bien écrit, c'est très littéraire. Et il n'est pas du tout complaisant, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout complaisant envers le lotissement. Il va trouver aussi qu'il y a des horreurs et que c'est une vie un peu stupide et que, bon, ça ne correspond pas à sa culture, à son milieu d'origine. Mais à partir du moment où on lui dit qu'il habite un endroit moche, eh bien, il se révolte. Et il a raison. Et j'en reste là. Merci de votre attention.
Merci beaucoup pour l'exercice vraiment pas évident de pouvoir en à peine plus d'une heure comme ça nous montrer toute une série de lieux, de sites, d'histoires différentes. Alors, comme le temps nous est compté et qu'on est assez nombreux, je pense que c'est vraiment important qu'on puisse ouvrir la parole à la salle. Moi, j'aurais personnellement pas mal de questions, je vais peut-être me limiter à deux et ensuite proposer aux personnes présentes d'intervenir. Ça sera un petit peu aussi pour des demandes de clarification si on veut. En revenant, disons, sur le thème même de ces rendez-vous de l'histoire, finalement, la première question, elle est peut-être assez simple, c'est de revenir sur le mot d'innovation J'ai eu l'impression au fil de l'exposé que peut-être il y avait plusieurs sens possibles dans ce terme d'innovation appliqué à la ville, évidemment. Il y a eu pendant pas mal de temps, on pourrait dire, dans la progression du raisonnement, cette idée d'une innovation, comme la citation de De Gaulle était là pour le rappeler, mettant de l'ordre, finalement venant dans une logique de ce qu'on appelle aujourd'hui donc par le haut, avec cette idée, au fond, qui correspond exactement à ce que Jackson appelle paysage politique, en l'occurrence, d'un aménagement planifié, voulu par les personnes qui sont aux responsabilités, au pouvoir. Et finalement, c'est un vrai fil conducteur, il me semble, de l'exposé, puisque en partant des villes dites idéales de la Renaissance italienne, on a affaire à un type de pouvoir quand même particulièrement peu démocratique, et néanmoins une forme d'innovation qui, et de manière assez intéressante, crée quelque chose comme un paysage urbain, parce qu'on sait ce qu'on a là. Donc l'idée de société idéale qui se trouve beaucoup mieux visible, beaucoup mieux représentée dans la fresque de Lorenzetti qu'on a vue également, elle est, me semble-t-il, pas nécessairement associée justement à ce qu'on pourrait imaginer à première vue, disons, comme étant liée à un système politique idéal. Bon. Alors, juste pour la question de l'innovation, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs innovations? Et vraiment une question, j'ai pas de réponse en tête prévue, mais il y a, il me semble, comme une sorte de ton un peu plus mineur dans l'exposé, mais qui prend de l'ampleur au fur et à mesure, jusqu'à, au fond, une sorte de peut-être contre-innovation, beaucoup plus plurielle, qui serait du côté de l'usage, pour reprendre un peu la ligne Henri Lefebvre. Donc c'est une vraie question. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir comme ça, sachant que l'innovation venant de l'urbanisme, des architectes, donc d'en haut, en l'occurrence, associée à un pouvoir politique généralement fort, c'est-à-dire que Mussolini, c'était quand même un pouvoir assez fort, on peut le dire. Le pouvoir de la Ve République, c'était pas non plus un pouvoir très, très marqué par la concertation, la participation des habitants, etc. Du point de vue de cette innovation-là, est-ce qu'il n'y a pas un aveuglement, justement, à un développement qui serait du côté des manières d'habiter, des usages, du mouvement, d'une forme de mixité, telle que, justement, la rue, dans notre tradition européenne, ou bien le terme de paysage vernaculaire du côté de Jackson, peut-être on peut revenir sur cette expression-là en deux mots aussi, parce que tout le monde n'est peut-être pas familier avec cette distinction-là. Est-ce que ce n'est pas une autre forme d'innovation, voilà? Ou est-ce que c'est excessif de le dire?
Alors, ce qui est sûr, c'est que les politiques, les hauts fonctionnaires, enfin, même pas les petits, parce qu'à l'époque, les politiques ont été mises en fait accomplies. Quand de l'ouvrier et autres ont dit « on va faire Sergi Pontoise », les élus sont écrasés, ils étaient leur furieux, il y a eu des rébellions des élus à qui on a imposé l'existence des villes nouvelles. C'est évidemment une concurrence, etc. Et donc c'est en plus une époque absolument inimaginable, les années 60, alors qu'aujourd'hui on a un État faible, à l'époque on avait un État tout puissant, et non seulement parce que c'était De Gaulle, enfin ça s'est continué sous Pompidou et même après, donc un État puissant qui décrète des villes nouvelles, qui met en place des équipes de fonctionnaires d'urbanistes et d'économistes, etc., et qui planifie complètement. C'est-à-dire que c'est un système absolument soviétique. D'ailleurs, on a souvent dit que la France était le pays le plus soviétique de l'Occident, ce qui est vrai. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, de fait, il y a eu, même en 1945, cette complicité entre, comme on l'a dit, entre les communistes et les gaullistes, que De Gaulle a pu gouverner au moins au début avec les communistes. Ça n'a pas duré, mais du point de vue idéologique, il y a beaucoup de points d'appui, de points de ressemblance, parce que les deux voulaient un pouvoir fort. Et là, les villes étaient complètement planifiées. Alors là, aucune marge de manœuvre avec les habitants, c'est pas vrai, parce que pour Sergi, il y avait des ateliers participatifs avec Clément Douady. Mais ça, c'était, je dirais, pour certains quartiers d'habitat. Mais sinon, la planification était totale. Ce qui était le moins prévu, je dirais, c'était l'architecture. Et malheureusement, ce qui reste aujourd'hui, c'est l'architecture. C'est-à-dire que quand on passe, quand on visite, moins quand on habite, parce qu'après, on s'habitue à tout quand on habite, mais quand on passe et quand on visite, on est effectivement très perturbé par ces architectures dissonantes, divergentes, sans des styles très différents. On n'arrive pas à se repérer. Et quand on voit Beaufil, on dit, finalement, c'est peut-être pas si mal, Beaufil, parce que tout le monde, il y a une... Il y a une référence. Mais le projet, c'était un projet de... pas de ville idéale au sens de la Renaissance, mais c'est un projet de ville idéale au sens de société idéale. C'est-à-dire que tous ces gens donc des villes nouvelles avaient des idées très généreuses de sociabilité ouverte, de séparer les voitures des piétons. Ils y croyaient, ils étaient de bonne foi. C'est-à-dire qu'ils avaient ils portaient en eux encore les théories de Le Corbusier, donc de la Charte d'Athènes, de séparation par exemple, entre piétons et voitures, mais sans les défauts de Le Corbusier, enfin de la Charte d'Athènes, pas de Le Corbusier, parce que Le Corbusier n'a pas construit grands ensembles, mais sans les défauts de la Charte d'Athènes qui... je me tourne vers le photographe du fond. La Charte d'Athènes, ses défauts qui étaient de construire cet urbanisme très dur, sans référence du tout à l'histoire. Alors, ce qui est après, l'usage a plutôt condamné cette séparation voiture-piéton, parce que de fait, la rue, c'est encore ce qu'on a trouvé de mieux, et pour ça que tous les architectes urbanistes, théoriciens de la même époque, comme Castex, Panerai, etc., ont revalorisé la rue, parce qu'on s'est rendu compte que pour faire une ville, la rue, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Et Sergi Pontoise, cet exemple est formidable, parce que vous avez Sergi Préfecture, qui est un quartier, je dirais, tout sur dalle, avec une dalle et puis une opposition entre piétons, voitures, un zonage très fort entre équipement et habitat. Et puis vous avez après Saint-Christophe, qui est au contraire une espèce de ville piétonne, avec des rues et des commerces en pied de rue, et une architecture même de briques, vivant avec des références européennes très fortes. Donc la pensée des villes nouvelles, la pensée urbanistique des villes nouvelles, elle a même évolué très vite. Et à chaque étape, on reconnaît un petit peu, là, on voit un petit peu la différence. Pareil pour Marne-la-Vallée, vous commencez par une architecture donc de Beaufil, et puis vous terminez par Val d'Europe, alors qu'effectivement la ville de Disney, qui est la ville d'un urbanisme américain, vous avez des faux immeubles haussmanniens. Et vous êtes dans un décor de théâtre, avec d'ailleurs l'outlet de Val d'Europe, le centre commercial de Val d'Europe, qui est un outlet au sens américain, un faux village, avec d'ailleurs vigile à l'entrée, vous ne pouvez pas faire de photo. Enfin, c'est absolument ahurissant, cette conception de l'espace public est un espace privé, qui n'a même pas de délégation de service public. Donc vous croyez dans une rue, vous êtes dans un centre commercial, c'est étonnant. Et vous avez une architecture qu'une architecture pseudo-haussmannienne, avec d'ailleurs un contraste étonnant, parce que vous avez la ville privée, qui est la ville d'Haussmann, la ville de Disney, et puis la ville publique, la ville des équipements. Donc vous avez les écoles, la mairie, etc., qui sont une architecture contemporaine. Et puis, à côté de ça, toute la ville privée, qui est la ville de l'habitat, c'est que des références historiques. Vous avez des faux Schinkel, du faux Haussmann, enfin, c'est assez étonnant. La question, c'était...
Je pense que, enfin, parce qu'il ne faut pas que les gens se sentent captifs non plus. On va essayer de donner la parole peut-être tout de suite. Enfin, si j'ai de la place, je poserai moi d'autres questions après. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Non, pas tout de suite, pas encore. Dans ce cas-là, je peux poser les miennes. Mais non, alors justement, ça permet peut-être d'enchaîner un peu.
Les questions sont aussi longues que mes réponses. Alors
je fais bref. Je fais bref, mais c'est dans ce qu'on vient d'entendre et dans tout ce qu'on a vu dans l'exposé, finalement. Il me semble qu'il y a un sujet qui est intéressant toujours pour aborder la question de l'innovation sous un angle historique, qui est la part des références qui sont faites dans ces innovations. Et finalement, c'était quelque chose qui se voyait très bien pour ceux qui avaient l'image. Pour les auditeurs de la radio, c'était moins évident, mais disons que chacune des images qu'on a vues, ou presque, se situe dans un rapport à l'histoire, au passé. En particulier les cités dites idéales de la Renaissance, bien sûr, avec la convocation de l'Antiquité, mais on retrouve cette convocation de l'Antiquité chez Beaufil. On retrouve, dans le cas du quartier de Léour à Rome, le Colisée, etc. Alors, dans quelle mesure est-ce que cette référence à l'histoire, ou en tout cas... Peut-être justement, pas seulement l'histoire, c'est le sens de ma question, je vais y venir. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une référence justement dans le geste d'innovation qui permette de faire apprécier cette innovation en l'articulant à quelque chose de connu ? Et dans le cas justement des villes nouvelles modernistes françaises, où la référence au passé est peut-être moins évidente, voire délibérément négative, anti-ville, anti-rue, est-ce que l'articulation au paysage, en tout cas à l'espace libre, l'espace de circulation, ne vient pas peut-être jouer un rôle qui serait analogue ? C'est vraiment une question de, je n'ai pas d'arrière-pensée là-dessus, donc c'est une question ouverte, mais en écoutant l'exposé, elle m'est venue.
Non, il y avait une vraie invention en matière de plan, de dessin de plan, dans le sens que c'est une rupture totale avec la ville européenne, pour pas parler de cité idéale, mais de la ville européenne. Et donc avec un peu de chair d'Athènes, mais un peu actualisé, un petit peu adouci. Là où il y a une vraie invention, c'est effectivement c'est sur la question du paysage, parce qu'il y a un rapport au paysage qui, et là effectivement, étant ici, ça méritait plus d'images. Il y a un rapport au paysage de la part de toutes les villes nouvelles, peut-être un peu moins d'Évry encore, mais surtout de Cergy Pontoise et de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est très 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 fort. C'est-à-dire que il y a la volonté de créer à Cergy, par exemple, une ville-jardin. Ça, c'est explicitement dit par les concepteurs. Et on voit encore dans les quartiers d'habitat des aménagements paysagers qui sont extrêmement agréables. C'est-à-dire que paysager au sens de composition de prairies, de bosquets, d'arbustes, d'ondulations, de buttes, etc., de tenir compte du passage de l'eau, cheminement piéton. Et ça, on a ça tout près de, même dans le quartier préfecture, derrière le parc là, de la préfecture, il y a des quartiers d'habitat, les toilettes, etc., qui sont déjà d'ailleurs avec des architectures aussi d'architectes de Scandinaves, mais avec un souci de paysage, en plus de paysage vraiment construit, enfin construit au sens de planter. C'est pas ils sont pas partis en recueillant comme à Tapiola. Tapiola, il n'y a rien à faire. Tapiola, vous gardez les arbres, vous en coupez 100 sur 10 000, et puis vous avez une ville superbe. Là, non. Fallait faire avec les plaines à betteraves. Les plaines à betteraves, évidemment, il fallait tout planter. Puisque, je l'ai dit, mais je le répète, la ville s'est pas construite sur les coteaux, elle s'est construite en haut. Et donc, les recompositions très, très fortes. Et ça, c'est quelque chose qui était nouveau parce que, dans les grands ensembles, vous avez des exemples, Jacques Simon et autres, très rarement d'ailleurs appelés ou pas si souvent que ça, mais les grands ensembles sont réputés quand même être plutôt pauvres pour leur aménagement paysager, sauf exception, alors que c'était une préoccupation systématique dans les villes nouvelles, y compris avec la brique, avec le choix des matériaux. Donc là, ça c'est quelque chose qui était nouveau dans l'urbanisme français.
On a une question de la salle à cet instant précis où il nous reste peu de temps, mais on peut encore avoir une question peut-être. On me fait signe que non, mais on n'aime pas trop les questions rapides. Allez, je vous donne un micro.
Je répondrai par oui ou par non.
Oui, voilà. Ce qu'on sent tout au long de votre exposé, en dehors de l'innovation, en effet, dont on voit bien que le rapport évolue dans le temps, c'est également le poids du politique. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a aussi un déplacement de la décision, donc de la décision du financement et du choix architectural du projet, qui s'est déplacé, vous ne le dites pas vraiment, mais est-ce qu'il s'est réellement déplacé ? S'il s'est déplacé, il se déplace vers les élus locaux. Et du coup, comment analysez-vous ce déplacement, si jamais il y a déplacement ?
Oui, effectivement. Si on prend, par exemple, la délégation de l'État dans les départements, ce qui était autrefois la DDE, qui maintenant s'appelle DDT, puisqu'elle a fusionné avec l'agriculture, les DDE, les DDT, donc, disent elles-mêmes effectivement qu'elles ont très peu de pouvoir. Et une montée en puissance des élus locaux, c'est absolument juste. Je vais même vous dire, Ça, c'est un peu un point de détail, mais peut-être pas pour faire une réponse courte, mais que j'ai vu tout à fait, encore ce matin, pour ça que j'en parle d'autant mieux, que dans une commune du Toulouse, du sud de Toulouse, la périphérie de Toulouse, il y avait deux équipes municipales qui se sont opposées, une ville un peu riche, et les deux équipes se sont opposées sur la question d'urbanisme. L'équipe qui a gagné, c'est sur le projet qu'on appelle BIMBY de densification. Dans le tissu existant, cette équipe-là a gagné en 2014 contre l'équipe municipale qui proposait tout simplement une extension par délotissement. Donc c'est pour dire que la question de l'urbanisme, elle reste essentielle et que c'est un... Enfin, comme on dit, vous savez, maire bâtisseur, même maire battu, c'est vrai et c'est faux parce que les maires aussi doivent s'impliquer dans la construction, mais ça reste quelque chose d'absolument essentiel. Ce qu'on note aussi, c'est que il y a une dispersion des décisions politiques du fait de la dispersion territoriale française, des fabrications civiles communes, même si maintenant on va de plus en plus vers l'intercommunalité. Et cette dispersion contraste avec les métropoles qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir. Et tous les grands projets dont on parle, d'architecture ou de ZAC, etc., sont de fait très minoritaires par rapport à toutes les décisions, les micro-décisions prises au niveau local qui font qu'après, ah, la ville moche, bah oui, évidemment, la ville moche est arrivée parce que le maire du coin, il a fait tout ça. Et tout ça est arrivé très subrepticement. Et malheureusement, maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. Donc on essaye de limiter l'étalement urbain, la loi Allure, la loi SRU d'abord, la loi Allure essaye de limiter. Mais de toute façon, on n'y arrivera pas parce qu'il y a une demande forte et on peut douter, on peut discuter en tout cas de la légitimité, mais des Français, des citoyens, des habitants, de vouloir habiter en maison tant qu'ils le peuvent et tant que le territoire français le permet. Et donc directement, le débat est là. Tout le gros débat, c'est sur la densification, l'artificialisation des terres agricoles. Vous savez, on dit que tous les 7 ans, on perd l'équivalent des départements, que c'est pas possible, que pour des raisons environnementales, l'émission de CO2 par les voitures, donc on doit limiter les termes urbains, etc. Mais la crise du logement qui est vécue, elle est due en partie au fait qu'il y a un coup de frein apporté à l'extension périurbaine qui fait qu'on a construit moins, parce qu'en France, le lotissement populaire ou la maison diffus qui représente, faut pas l'oublier, 2/3 des maisons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit même pas dans les lotissements, on construit 2/3 des maisons diffus, c'est-à-dire... comme ça, coup par coup. Construire une maison diffuse, c'est ce qui coûte le moins cher en France, dans les communes rurales. Et ici, on est une région rurale. Donc, de fait, si on limite la construction diffuse, on limite les constructions de logements tout court. Donc, c'est de la grande contradiction actuellement des urbanistes et des politiques. C'est de savoir jusqu'à quel point on doit admettre l'extension sur les territoires agricoles. Comme sur les terres, quand on parle d'artificialisation des terres agricoles, moi je dis, mais pourquoi vous parlez d'artificialisation alors que vos terres sont des terres qui sont déjà mortes? Les agronomes nous disent que ces terres ne produisent qu'à coup d'engrais et de pesticides. Donc est-ce qu'il ne vaut pas mieux des jardins entretenus par vous et moi avec une biodiversité qui sera supérieure à ces plaines à blé qui sont de fait des terres mortes? Bon, je suis un peu sorti du sujet.
Bien. Je pense qu'il n'y a plus de questions, ce qui veut dire que nous avons fini. Je remercie tout ce nombreux public. Je remercie notre conférencier pour ce moment. Et à bientôt, j'espère. Restez en contact avec le site web de l'école pour connaître la date de la prochaine...
Pour information, le programme est affiché en fait dans le hall en bas.
D'accord.
Le thème de cette année, donc là, on est un peu hors thème parce que c'est la pré-thème qui se rattache au rendez-vous de l'histoire, mais le thème, c'est sauvage. Donc vous verrez le programme détaillé en bas dans le hall. Merci encore d'être venus si nombreux.
Et merci. Bonne soirée. Jean-Michel.